Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Alger et Paris, 6h30 à Ouagadougou. Et tout de suite, le journal de Paul Lonsin-Spinelli à la une. Paul, le verdict du procès Boualem Sansal attendu dans la matinée.
10 ans de prison ont été requis à l'encontre de l'écrivain franco-algérien pour atteinte à l'intégrité territoriale. L'essayiste est déjà incarcéré depuis la mi-novembre. Sa situation a participé à tendre considérablement ces dernières semaines les relations diplomatiques entre les deux pays et en France. La classe politique se mobilise pour réclamer la libération de Boualem Sansal. Au Burkina Faso, la chaîne privée BF1 dans le viseur des autorités pour la diffusion des propos du président de l'association des journalistes du Burkina, dénonçant notamment des atteintes à la liberté de la presse. Le Soudan du Sud se rapproche de la guerre, c'est la crainte partagée par l'ONU cette nuit, après l'arrestation hier du vice-président Riek Machar par les forces du président Salva Kiir. Et puis, notre dossier du jour consacré au sommet Nutrition pour la croissance qui s'ouvre à Paris aujourd'hui. Acteurs politiques, privés, ONG se réunissent pour tenter de trouver des solutions afin de lutter contre la malnutrition, l'une des principales causes de mortalité infantile en Afrique.
Boualem Sansal va savoir s'il est ou non condamné par la justice algérienne.
Le verdict est attendu en effet ce matin, soit plus de 4 mois après l'arrestation et l'emprisonnement de l'écrivain franco-algérien. 10 ans de prison ont été requis la semaine dernière par le procureur. Le jugement est donc très attendu par toute la classe politique française sur fond de crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Victorien Villaume.
Tous les députés espèrent une issue favorable pour Boualem Sansal. Un espoir d'autant plus grand qu'Abdelmadjid Tebboune a joué récemment la carte de l'apaisement. La socialiste Béatrice Bellé.
Nous pouvons que voir les mots d'apaisement comme des espoirs pour Boualem Sansal. On croise les doigts parce que face à un gouvernement qui a décidé d'avoir quand même des attitudes autoritaristes, on peut s'attendre au tout bon comme au pire.
Alors si l'écrivain est condamné et si le président algérien ne décide pas de le gracier, quelle attitude adopter ? Au Modem, malgré le risque de rupture, on défend la ligne dure de François Bayrou. Philippe Vigier.
Il y aura une graduation des sanctions, parce qu'on ne peut pas laisser les choses se faire comme cela. C'est tout, simplement, c'est pas une menace. La démocratie a un prix.
Tandis que pour la gauche, c'est la voie diplomatique discrète qui devra être privilégiée. C'est la position des socialistes et des insoumis qui reconnaissent d'ailleurs des vertus à la posture du président français et du ministre des Affaires étrangères, Thomas Porte.
Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron ont quand même des positions beaucoup plus sensées sur la question algérienne, sur la question du rapport avec le pouvoir algérien. Donc il faut aussi que les voies diplomatiques qui ont été une richesse de la France par le passé puissent s'exercer, notamment sur des dossiers comme ça, où on sait que ça se règle en coulisses.
Le député LFI salue d'ailleurs le potentiel déplacement de Jean-Noël Barrot à Alger au début du mois prochain.
Victorien Villaume.
Au Burkina Faso, les autorités resserrent leur emprise autour des médias.
Dernière cible en date, la télévision privée BF1. Le Conseil supérieur de la communication vient de lui infliger une amende de 500 000 francs CFA en raison d'un reportage sur le congrès extraordinaire de l'Association des journalistes du Burkina. L'auteur du reportage a lui été suspendu de toute activité audiovisuelle pour 2 semaines. Ces 2 sanctions, elles interviennent à la suite de la diffusion sur BF1 des propos du président de l'Association des journalistes du Burkina qui dénonçait les atteintes à la liberté de la presse et l'utilisation de certains médias publics pour des campagnes de propagande, Frédéric Gara.
Dans son communiqué, le Conseil supérieur de la communication, chargé de réguler les médias au Burkina Faso, estime que certains propos contenus dans le reportage sont de nature injurieuse, diffamatoire et malveillante à l'endroit des autorités burkinabées, de l'ARTB, la radio-télévision publique, et de l'agence d'information du Burkina. Ces propos seraient, selon le CSC, également constitutifs de désinformation, car basés sur des allégations infondées, précise le Conseil. C'est d'ailleurs la gravité des faits qui a valu une convocation des responsables de la télévision BF1, souligne l'instance de régulation des médias. Un peu plus tôt dans la journée, la direction de BF1 avait dans un communiqué présenté ses excuses à la radio-télévision publique ainsi qu'à l'agence d'information du Burkina et aux autorités pour avoir relayé des propos qualifiant les médias RTB et AIB de propagandistes. Nous regrettons profondément l'impact négatif qu'ils ont pu avoir sur l'image de la RTB et de l'AIB, peut-on lire dans ce document. La direction, qui, outre ses plates excuses, a fait supprimer le reportage incriminé de ses différents canaux de diffusion.
Frédéric Gara, le Soudan du Sud menace de basculer dans un conflit généralisé. C'est le cri d'alarme de l'ONU cette nuit en réaction à l'arrestation du vice-président Riek Machar, selon son parti, par les forces du président Salva Kiir. Une interpellation sont conduites par le ministre de la Défense et le chef de la Sécurité nationale hier soir.
Des failles dans les caisses du Sénégal, toujours en cours d'analyse.
Comment environ 7 milliards de dollars de dettes ont pu être sciemment cachés par l'administration précédente? Un montant confirmé par le Fonds monétaire international. Et désormais, les experts tentent d'en comprendre les causes et explorent les pistes pour sortir de cette situation financière fragile. Léa-Lisa Vesterov.
Si le Fonds monétaire international reconnaît l'existence de dérapages budgétaires, une partie de la dette dissimulée et des fausses déclarations de l'administration précédente, l'institution financière reste silencieuse par contre sur sa propre responsabilité dans cette crise financière majeure, inacceptable pour l'économiste Magaï Gueye.
Il faut que le FMI se justifie dans ce qui s'est passé, parce qu'il y a des contrôles à faire, il y a un suivi rapproché, donc finalement se retrouver avec une dette qui dépasse les 100% du PIB, avec également des dettes non retracées dans la comptabilité publique, il y a eu un manque de vigilance.
De son côté, le Fonds monétaire international exige que Dakar prenne des mesures correctrices et assainisse ses finances publiques, une condition avant d'envisager de prêter à nouveau au Sénégal. Eliman Abikane, qui dirige le think tank l'Ex-Africa, s'inquiète de l'impact social de possibles mesures d'austérité.
Enlever les subventions, ça va avoir quand même un autre impact est transférer la crise financière sur le plan social. Et ça, le risque, ça veut dire que les gens ne vont plus supporter la charité de la vie, etc. Et ça risque de se transformer en front social, comme la situation au Kenya. C'était parce que l'État avait relevé la fiscalité. Il y a eu des émeutes.
Dans l'immédiat, le Sénégal espère négocier une dérogation pour ne pas avoir à rembourser le FMI et emprunter à nouveau, arguant de sa bonne foi après avoir publié l'état de ses finances. Léa-Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
En Guinée, l'opposant Aliou Ba, de nouveau jugé pour s'en être pris au chef de la junte.
Le procès en appel du président du mouvement démocratique libéral, le modèle, s'est ouvert hier à Conakry. Il avait été condamné en première instance il y a désormais près de 3 mois à 2 ans de prison ferme pour offense et diffamation à l'encontre du général Mamadi Doumbouya au pouvoir depuis septembre 2021. Compte rendu d'audience signé Mouktar Ba.
C'est dans une salle d'audience archi-comble que ce procès en appel a débuté sans véritablement évoluer à cause de querelles de procédure entre avocats des parties civiles et parquets entraînant le renvoi de l'audience au 9 avril prochain. Maître Almami Samori Traoré, l'un des avocats de la défense, s'interroge.
Nous attendions à ce que l'affaire soit plaidée à l'audience aujourd'hui, parce que tout est fait pour être plaidé. Et au-delà de ça, on ne comprend pas pourquoi le juge renvoie l'affaire au 9 avril. Nous sommes très surpris, mais on reste serein, ça ne nous déstabilise pas. Voilà, nous défendons quelqu'un qui est innocent.
Le prévenu Aliou Ba ne reconnaît pas les faits pour lesquels il est devant la juge, Madame Fatou Bangoura.
Je ne me reproche de rien et de rien, absolument. Il n'y a aucune preuve qui dit que j'ai diffamé qui que ce soit. Je m'interroge, quel type de société voulons-nous construire? Une société où il y a une justice qui peut mettre en prison Aliou Ba.
Fervent croyant, Aliou Ba s'en remet à la sagesse du tribunal pour recouvrer sa liberté qu'il estime confisquée.
Madame la Présidente, nous sommes au mois de Ramadan, musulmans et du carême pour les chrétiens. Entre Dieu et moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait jusque-là pour mon pays. Et je pense que vous aussi, vous me rétablirez dans mes droits en me rendant ma liberté.
Outre les sympathisants et amis de Aliou Ba, des représentants des chancelleries occidentales, dont l'Union européenne, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Espagne, était aussi présent dans la salle d'audience. Mokhtar Ba, Conakry, RFI.
Des centres de la dernière chance pour sauver des enfants malgaches victimes de la faim.
Ces établissements, ce sont les CRENI. CRENI, c'est l'acronyme pour Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle intensif. Pour le dossier de ce journal et à l'occasion de l'ouverture du sommet Nutrition pour la croissance à Paris aujourd'hui, RFI a décidé de s'intéresser à ces sites dédiés au traitement des enfants atteints de malnutrition aiguë sévère. À ces centres, ils sont au nombre de 76 à Madagascar, dans le grand sud de l'île notamment. Leur travail est même devenu incontournable, surtout en ce moment. Entre décembre et février, le nombre d'admis a triplé, passant à 7560 le mois dernier. Et le CRENI de Tuléar n'échappe pas à la règle, c'est ce qu'a constaté notre correspondante Sarah Teto.
Félix gît sur le matelas en plastique du CRENI. Le petit garçon de 17 mois a les yeux ouverts, mais le regard absent. Immobile, Il n'a même plus la force de cligner les yeux pour chasser les mouches trop envahissantes. Il y a une semaine, explique sa maman, il s'est évanoui.
Ensuite, il a vomi et il a eu la diarrhée. Je suis allée voir une tradipraticienne, mais ça n'a pas eu d'effet. Alors, je l'ai amené à l'hôpital. Il était toujours inconscient et on nous a admis ici.
L'enfant souffre de malnutrition aiguë sévère. S'il suit le traitement de bout en bout, il aura 60% de chances de s'en sortir, indique l'infirmier qui s'occupe de lui.
Il était très 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 faible au moment qu'il était venu ici. On lui a donné de l'oxygénothérapie pendant 6 jours. C'est déjà 3 jours qu'il est réveillé, mais pas normal. Les médicaments, ce sont des antibiotiques et du lait thérapeutique introduit par la sonde.
Depuis décembre, les centres dédiés à la lutte contre la malnutrition aiguë sévère ont enregistré une très forte hausse d'admissions, due en partie à la période de soudure. Les stocks de nourriture sont quasi épuisés dans les campagnes et la prochaine récolte n'aura pas lieu avant début mai. Mais le nombre d'enfants admis a aussi doublé par rapport à l'an dernier. L'UNICEF mène actuellement une enquête nutritionnelle pour en déterminer les causes. Et ce qui alerte encore plus, c'est l'augmentation sans cesse croissante de patients citadins comme Félix, preuve que cette pathologie ne touche plus seulement les habitants de la Brousse. Sarah Teto, de retour de Tulare, RFI.
La malnutrition qui ne touche pas que Madagascar, c'est aussi l'une des premières causes de mortalité infantile au Soudan du Sud. Samuel Chor y est le coordinateur national de la coalition de la société civile pour les droits des enfants. Il espère que ce rendez-vous à Paris entre acteurs politiques, privés, ONG et société civile sera l'occasion de s'engager dans la lutte et d'allouer plus de moyens contre la malnutrition.
La situation de la malnutrition est très critique au Soudan du Sud. Au cours de ces 2 dernières années, près de 9 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire et près d'1 500 000 enfants étaient en état de malnutrition. Nous voulons que ce nombre soit réduit. Nous attendons que nos autorités s'engagent en matière de nutrition. Le gouvernement s'était engagé à allouer 10% du budget national à l'agriculture et à la sécurité alimentaire et 15% aux services de santé. Ces engagements pris en 2021 lors du sommet de Tokyo n'ont pas été respectés. Nous souhaitons que de nouveaux engagements soient pris par notre gouvernement et aussi par d'autres pays, mais que ces promesses soient cette fois respectées afin d'augmenter les aides et qu'on s'assure aussi que les initiatives soient réellement appliquées sur le terrain.
Make sure that nutrition activities are implemented.
Samuel Chor interrogé par Kpenaï Traoré.
Après avoir organisé la CAN en 2023, pas sûr que la Côte d'Ivoire décroche l'organisation de la compétition dédiée aux moins de 20 ans.
Le pays aurait annoncé se désister de l'organisation de la prochaine CAN U20, comme elle est appelée. Le tournoi doit pourtant se dérouler du 28 avril prochain au 18 mai, mais pour le moment, rien n'est officiellement acté, comme nous le précise depuis Abidjan Yoann Gourlet.
Ce mercredi matin, un texte signé de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, à destination des membres du COCAN, le comité d'organisation de la CAN U20, a circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il expliquait que le gouvernement ivoirien avait annoncé que la Côte d'Ivoire se désistait de l'organisation de la CAN U20. Le texte dit aussi que la CAF, la Confédération Africaine de Football, a été prévenue de cette décision. Une lettre interne aux instances donc, mais qui a fuité et a été reprise par l'ensemble de la presse sportive ivoirienne et internationale. Du côté de la Fédération Ivoirienne, un haut placé explique que la lettre aurait fuité délibérément pour mettre un coup de pression à la CAF. Mais pour l'heure, on ne sait pas encore pour quelle raison l'État ivoirien a fait cette annonce à la FIF. Certaines sources évoquent des questions budgétaires. On se souvient que quelques jours avant la CAN organisée l'an dernier en Côte d'Ivoire, la CAF avait demandé au gouvernement de payer les primes des sélections qualifiées pour la compétition, ce qui avait provoqué des tensions au sein des instances du foot ivoirien. Mais pour le moment, la FIF et la CAF ont assuré que le désistement de la Côte d'Ivoire n'était pas officiel. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Et cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, elle se déroulera donc du 26 avril au 18 mai. C'est la fin de ce journal africain. Je repasse la main à Andréane Mellard pour la suite de RFI Matin.
Merci Paul Lonsin-Spinelli. Et je précise que le foot, c'est à la une du journal des sports. Dans une heure, Antoine Grenier viendra nous en parler.